Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Né en 1925 en Californie, Alan Kopp avait 18 ans lorsqu'il fut appelé pour venir faire la guerre en Europe. Installé en France au lendemain de celle-ci, il ne retourna plus aux États-Unis, travailla comme employé civil pour l'armée américaine en France et en Allemagne, avant de s'installer pour sa retraite sur l'île de Ré. C'est là que, un beau jour de juin 1994, il fit la connaissance du dessinateur Emmanuel Guibert. De cette rencontre de hasard naquit une amitié, de longues conversations et puis un projet de livre. Dans les trois volumes de La guerre d'Alan, paru entre 2000 et 2008 chez l'association, Emmanuel Guibert dessinait la guerre telle que son ami la lui avait racontée. Un récit prolongé en 2012 par L'enfance d'Alan et en 2016 par Martha et Alan, deux albums qui nous plongeaient dans la prime jeunesse du personnage et du même coup dans l'Amérique des années 30. Entre-temps, Alan Kopp avait en août 1999 été emporté par un cancer. En 2011, à l'invitation de Christian Rosset, Emmanuel Guibert retournait à l'île de Ré sur les traces de son vieil ami pour deux journées de voyage racontées dans un documentaire diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 novembre 2011.
Je veux que tout change.
Les ateliers de la nuit. Christian Rosset est un dessinateur, en fait. Mais il n'y a jamais de contour et sa feuille est toujours la même. Il aime la surimpression. Il y a toujours le trait et son fantôme. Il augmente de son imagination, de ses questions et du son, le geste de celui qui dessine. Ce soir, il remonte dans l'histoire d'un corps. Il s'introduit dans la chair pour la faire parler, et ça commence par la main du dessinateur Emmanuel Guibert. C'est elle qui, avec précision, donne le visage d'Alan Ingram Cope. Dans la bande dessinée La guerre d'Alan, trois volumes, pour raconter ce jeune Américain, né en Californie, 1925, et appelé à 18 ans pour faire la guerre en France. Alan Cope est décédé dans sa maison de Saint-Martin-de-Ré, où Emmanuel Guibert avait l'habitude de le rencontrer. Christian Rosset remonte alors le temps pour arriver au présent. Il repart à l'île de Ré, voir et entendre les traces de cet homme. Christian Rosset surimpressionne. Il y a le visage dessiné d'Alan Cope, celui imaginé, raconté, fantasmé. Il y a la voix d'Alan Cope, celle du passé, et celle du présent réactivée par ceux qui l'ont connu. Il y a donc la mémoire et le présent complètement présent des questions de Rosset qui s'adressent autant à Cope qu'à Emmanuel Guibert. Portrait d'Alan Ingram Cope par Christian Rosset, réalisation Gilles Davidas. C'est maintenant, écoutez.
Je dois maintenant raconter quelque chose d'assez curieux.
Donc on est dans la gare de La Rochelle, là on vient d'arriver. Et Alan m'attendait généralement plus ou moins planqué derrière un pilier là. Et on allait rejoindre sa Volkswagen Orange, qui était un peu sa marque de fabrique dans l'île. Il était connu comme l'Américain à la coccinelle orange. Et à l'arrière, il y avait son chien, Cherokee, sur une peau de bête, qui était en train de se l'échouiller le bas-ventre. Et puis on grimpait dans la voiture et on partait ensemble pour l'île. Et on allait vers le pont, vers la mer, ce qu'on va faire en empruntant la bagnole qu'on va louer là.
Très américain, Alan.
Alan, c'était un Américain pour les Européens et c'était devenu un Européen pour les Américains. Comme beaucoup d'exilés, il n'était pas vraiment, plus vraiment d'un bord et pas vraiment de l'autre.
Et il avait d'américain de prime abord pour les gens de l'île, sa pointe d'accent, ses blue jeans un peu de tire-bouchonnant, ses grosses canadiennes l'hiver, ses chemises à carreaux.
Va à droite, parce que je crois que c'est tout droit.
Et puis il avait, j'imagine, d'européens pour les américains qui venaient le voir, toutes les habitudes de vie, toute la culture qui s'était forgée en vivant ici depuis l'âge de 22 ans, sans discontinuer.
Tu suis la flotte à droite. On va pas à Sainte-Marie. Sainte-Marie, j'y allais quand j'allais voir la femme d'Alan après le décès d'Alan. Elle était dans une maison de retraite à Lanoue.
À la grande campagne, nous prenions souvent les petites routes. C'était très joli. Je voyais pour la première fois des paysages typiquement européens, et les petits villages gris et tristes, mais quelquefois assez jolis. On voyait qu'ils pourraient être jolis s'ils arrivaient à se remettre de leurs expériences de la guerre. Et c'était un peu comme un livre d'histoire pour les enfants, pour moi. Nous avons un mot en anglais qui est « quaint ». Et tout était « quaint » et joli pour l'Américain que j'étais. Les routes étaient petites.
Portrait d'Alan Ingram Kopp par Christian Rosset. Réalisation Gilles Davidas. Avec Emmanuel Guibert, Henri-Suzanne Burel, Monsieur et Madame Gillardot et la voix d'Alan Kopp. Avec les images et les sons du jardin, de la mer, des arbres, des oiseaux, avec le dessin au plus près de la touche, du pinceau et de l'encre, avec en mémoire la guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, une des bandes dessinées les plus originales de ces 15 dernières années publiée à l'association, un lieu ouvert à toute expérience graphique et narrative. Qu'est-ce qu'un portrait ? Une tentative d'être avec, au plus près de ce qui survit, de ce que la mémoire nous restitue, et d'abord par les voix. Emmanuel Guibert a dessiné en silence pendant tant d'années, l'oreille parfois collée au poste de radio, et aujourd'hui il parle. Il nous donne à entendre. C'est une histoire de voix qui se rencontre. Et cette histoire est joyeuse, même si notre personnage n'est plus de ce monde. Tous deux, Alan et Emmanuel, n'ont eu que peu de temps pour échanger. Mais le dessinateur a engagé toute sa vie pour faire de cet échange une œuvre, c'est-à-dire avant tout un présent, un don. Nous étions les 31 octobre et 1er novembre sur l'île de Ré. Le magnétophone n'a cessé de tourner. Le temps était printanier, c'était mystérieux, c'était vrai. On n'en a jamais fini avec le souvenir. On n'en a jamais fini de recommencer à se remémorer.
Donc en fait, ce 16 juin 1994, j'étais avec mon père et on montait tous les deux cette rue. Et c'est en arrivant là que je l'ai aperçu pour la première fois. Il était en train de scier du bois devant sa porte. Il avait posé une chèvre. Et puis, il sciait son bois. Et il était torse nu. C'était un petit homme qui dégageait un peu une impression à la Picasso. Une espèce de torse assez costaud comme ça. Puis des poils d'artichaut là sur la poitrine. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit, enfin à vrai dire, je me suis approché de lui pour lui poser une question sur mon chemin, mais au fond, si je suis allé le voir, c'est parce que j'avais envie de passer un peu de temps dans cette maison et peut-être d'en savoir un peu plus. Et donc je lui ai dit, pardon monsieur, la rue de la République, ou la place de la République, et on a discuté un bon quart d'heure en fait. Et j'ai perçu tout de suite que c'était quelqu'un de très singulier et que j'aimerais bien passer du temps avec lui.
C'est un coup de foudre ?
C'est un coup de foudre, oui.
Qu'est-ce que, donc tu avais 30 ans ?
J'avais 30 ans.
Et tu passais tes vacances à l'île de Ré avec tes parents ?
Je venais pour la première fois ici. Mes parents avaient loué une maison pour une quinzaine de jours. Et je suis venu, ouais. Et c'était, je crois, deux jours après mon arrivée qu'on a fait connaissance.
Parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'en fond, comme si tu étais encore un enfant.
Oh, bah oui et non. Enfin, j'avais 30 berges. Alors on est ici dans l'entrée du jardin de Monsieur Gillardot, qui était il y a une quinzaine d'années, quand j'y suis entré pour la première fois, le jardin d'Alan Kopp. Et Ça a évidemment pas mal changé. L'emplacement où nous nous trouvons était totalement sauvage. Il n'y avait pas le portail que vous voyez ici. Il y avait juste une petite chaîne, une petite, un petit barbelé en travers comme ça, qu'on ouvrait et fermait. Et puis ici, donc ce carré d'herbe, c'était le parking où il garait sa petite Volkswagen orange. Et on en sortait, le chien allait fureter dans les fourrés. Et nous, on plongeait dans une cascade de végétation. Alan appelait ça des masserons. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Ça désigne une plante, mais je ne sais pas laquelle. En tout cas, il fallait à un endroit précis de cette cascade de végétation se lancer au jugé comme ça. Et on se cognait à une porte, une petite porte en bois qui était fermée par un antivol de vélo. On actionnait une clé qu'on avait sortie de dessous une pierre. Et ça permettait d'accéder au jardin. Et la première chose qu'on trouvait pratiquement en entrant, c'était la petite pièce d'eau que M. Gillardot a conservée aujourd'hui avec les poissons rouges. Et ce jour-là, il a disparu, après m'avoir assis avec un verre en main, il a disparu à l'étage, dans son bureau, et il en est redescendu avec une collection de tous ses passeports, depuis l'âge de 18 ans, je crois. Et on ne se connaissait pas. Il m'a fait un flipbook avec ses passeports, c'est-à-dire qu'il les a égrenés, feuilletés devant moi à toute vitesse, et j'ai vu son visage vieillir en accéléré, en l'espace de quelques secondes. Et j'ai trouvé ça très cru, en fait. Il est venu, il m'a dit, voilà, ma vie, c'est ça. Et il a feuilleté le machin, et je l'ai vu en l'espace de quelques secondes. J'ai vu son visage se barrer de lunettes, j'ai vu...
Tu le connaissais à peine.
Oui, je ne le connaissais pas, je venais de le rencontrer.
Mais c'est pas un peu étrange?
Si, c'est une façon de faire que j'ai trouvé à la fois non conventionnelle, poétique et en même temps un peu dérangeante. Et j'ai réagi d'ailleurs. Enfin, j'ai dû prendre une contenance, je ne sais plus laquelle, mais je me souviens qu'intérieurement j'étais frappé qu'il ait fait une chose pareille. Et en fait, c'était sa façon à lui de me confronter à son physique précisément et puis à son vieillissement. Il voulait également que je le voie jeune homme très vite parce que il avait été assez beau gosse et il tenait à ce que ça se sache, donc il avait montré une photo de lui à son avantage. Et puis il y a eu une autre expérience encore plus crue peut-être et pour moi aussi très marquante. C'était sur la plage des Prises, et le premier jour donc, où nous y sommes allés ensemble, on a commencé par une baignade. Il s'est mis en maillot de bain, et moi aussi, et puis il a légèrement abaissé son maillot de bain au niveau de son aine, comme ça, et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup surpris, qui était une sorte de bouchon de plastique fiché dans son anatomie, fiché dans son épiderme. Et avec un sourire très désarmant, il m'a dit, voilà, j'ai eu un cancer il y a quelques années et on a supprimé ma vessie. Et aujourd'hui, j'urine par ce moyen, par cette sonde que vous voyez ici, cette valve. Voilà. Et hop, maintenant on va se baigner.
Beautiful dreamer, wake unto me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world heard in the day, lulled by the moonlight, have all passed away.
Alors on a pierré la rue, là, c'était de la terre battue. Il y a de la lumière. J'entends la porte. Regarde devant. Non, c'est pas là. Voilà. Donc là, on est chez Alan. Ce qui m'avait frappé quand je l'ai aperçu la première fois devant cette maison, c'était la vigne. Parce qu'il y a au-dessus de nous, il y a une vigne qu'on voit pas bien parce qu'elle est un peu de...
C'est une maison, mais c'est une maison, comme on dit, une maison de ville.
ça ? C'était sa maison, oui. Et auparavant, c'était la boutique d'un drapier. Sur les littoraux, dans les îles, il y a évidemment toujours des drapiers qui faisaient les voiles. Donc ça explique un peu la structure tout en longueur de ces maisons-là. En l'occurrence, elle avait une poutre maîtresse qui était d'ailleurs un mât de bateau. Parce que de la même manière qu'il y avait des drapiers sur les littoraux, il y avait aussi évidemment des charpentiers de marine qui faisaient à la fois les bateaux et puis les charpentes des maisons, des églises, etc. Donc je ne sais pas si on la voit depuis cette fenêtre. On ne va pas être trop indiscret parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de dîner. Hein. Mais il y avait une belle poutre maîtresse qui court tout le long de la maison. Et à l'extrémité, c'était la boutique. C'est que ça avait pignon sur rue et ils vendaient, ils détaillaient les draps qu'ils fabriquaient ou qu'ils ravaudaient à l'intérieur. Donc là, on est devant le salon d'Alan. Souvent, il garait son vélo, là. On est passé devant la porte de la cuisine. On n'ose pas actionner la poignée, mais si on le faisait, on entendrait le bruit significatif qu'elle faisait à l'époque. Mais là, il y a des gens à l'intérieur, donc on ne va pas le faire. Et puis les fenêtres qui sont au-dessus de nous, c'est les fenêtres de son bureau et puis de l'autre côté de sa chambre. Mais quand il y est arrivé, il a fait beaucoup de travaux. Il a construit une cheminée de ses mains, par exemple. Il était très fier de sa cheminée. Et il a beaucoup bricolé à l'intérieur de la maison. Donc, elle lui ressemblait. Ah, précise. C'est quoi la ressemblance ? Ben, c'est étrange. C'était à la fois quelqu'un de très méthodique. C'est-à-dire qu'il aimait bien ranger et ordonner. Mais le résultat de tout ça, c'était une impression de désordre. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, dans la maison beaucoup de choses qui coexistaient. Là, on est devant la pièce où il y avait à la fois la salle à manger, pleine de vestiges de sa vie passée, de sa vie en Allemagne. Et puis, il y avait toutes ces cassettes vidéo, il regardait ses films, là, sa téloche, etc. Puis tout à côté, il y avait l'atelier, qui était tout un bazar d'outils, en vrac, de pinces, de marteaux, etc. En dessous, on soulevait une trappe, il y avait une cave où il mettait son pinard. Et puis voilà, l'étage, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec tous ces oiseaux là qui chantaient à tue-tête à longueur de temps. Donc, c'était un... Il y avait une odeur singulière, comme il y a toujours dans les maisons.
Tu te souviens ?
Alors, j'ai eu l'occasion de m'en souvenir, c'est bizarre, au Japon. Cette odeur, elle était un concours de, comme toutes les odeurs de vieilles maisons, un mélange de bois, d'encaustique, d'encens, de toutes sortes d'objets divers. Et je ne l'ai jamais trouvé reconstitué comme dans un vieux sanctuaire Shinto, à quelques mètres au-dessus de la villa Kuchoyama, où j'ai résidé pendant 3 mois, il y a quelques années. Et un jour, en me pointant dans ce sanctuaire, j'ai fait connaissance avec le Guji, qui était le vieux prêtre du lieu, là, et qui m'a très gentiment invité à entrer dans sa petite guitoune. Et je me suis immobilisé sur le seuil, et c'était rigoureusement l'odeur de cette maison. Marrant d'avoir fait des dizaines de milliers de kilomètres pour se retrouver dans l'île de Ré. Mais c'était tellement l'odeur de cette maison que j'ai fait, en fait, là-bas, un dessin très long qui m'a pris 3 mois. Je venais à peu près 1 heure tous les jours pour rajouter quelques centimètres carrés à ce dessin. Et je crois que si j'ai choisi cet endroit pour poser mes fesses et faire ce dessin, c'est parce que j'avais cette odeur à côté de moi et que j'avais envie de l'inhaler tous les jours.
Est-ce que tu l'as déjà envisagé comme un maître ?
Certainement.
Et donc toi comme disciple ou quelque chose comme ça?
Certainement. On avait un âge, lui et moi, qui impliquait un peu ça de manière naturelle. À partir du moment où on tombe sur quelqu'un qui a en l'occurrence près de 70 ans et puis qui n'est pas sclérosé, qui aime bien la vie, qui aime bien continuer à apprendre des choses et puis qui, l'âge aidant, a aussi envie de les faire passer, on se place très naturellement en position l'un d'écoute, c'était moi, l'autre de discoureur, c'était lui. Donc il m'a évidemment appris un nombre de choses absolument considérables. Cela dit, je pense que notre relation amicale n'aurait pas été équilibrée si j'avais pas eu l'impression, moi aussi, du haut de mes 30 berges, de lui faire profiter de ce que la vie m'avait appris, et en particulier de ma pratique de dessinateur.
J'arrête au pif.
Mon expérience dans la guerre, elle est être comme ça. On n'avait rien à craindre. tant qu'on était dans cette partie de la France, ou du moins on le supposait, et c'était vrai. On montait la garde toutes les nuits, toutes sortes de choses comme ça, on bivouaquait, creusait des tranchées pour pouvoir faire caca dedans et tout ça. Mais en même temps, ce n'était pas spécialement dangereux, mais c'était très peu confortable.
Par moments, je me marrais intérieurement en me disant, si quiconque entrait ici pendant qu'on est en train de se causer, les gens seraient confondus par la banalité de ce qu'on est en train de se dire. Et il y avait un miracle, c'est que moi, ça me passionnait. Ce miracle, ça tenait au fait qu'ils considéraient l'existence. Alors, c'est pas qu'il manquait d'humour, il y en avait beaucoup. Il y avait un vrai humour anglo-saxon, c'est-à-dire plutôt pince sans rire. Mais ils considéraient la vie avec sérieux. Et au fond, beaucoup de petites choses, ils leur donnaient du relief en me les exposant par le menu, avec un commencement, un milieu, une fin.
Nous sommes arrivés à côté d'un arbre, le tronc d'un très grand arbre. Et là, appuyé, adossé à cet arbre, il y avait une fille comme on voit dans les rêves. Elle était vraiment magnifique. On a parlé un peu, mais elle ne parlait pas anglais. Je n'arrivais pas à communiquer avec elle, avec le peu d'allemand que je connaissais. Je ne sais pas, je crois que nous lui avons passé une cigarette, ou des choses comme ça. Et puis elle s'est mise à dire des choses que je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Et Stanley m'a dit, mais tu ne comprends pas, elle veut que tu l'accompagnes jusqu'à chez elle. Et je dis, c'est ça qu'elle essaie de dire. Il m'a dit oui. Je lui demande, je ne sais pas comment on s'est fait comprendre, difficilement. Hein. Alors, j'ai dit oui, d'accord, je pensais, Stanley m'a dit, tu comprends, elle est très belle, il y a des gars partout, et elle a peur de rentrer chez elle. Je ne sais pas s'il avait compris ce qu'elle disait, ou si tout simplement, et, étant donné qu'il était plus expérimenté que moi, et il avait pigé. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, il doit l'habiter au bout du village ou quelque chose. Eh bien non, oh, j'ai dit oui, cette créature était superbe. Elle était vraiment gitane. D'abord elle était habillée comme une gitane, avec une longue jupe assez colorée, très jolie, un corsage très saillant. Je crois que c'était en noir dentelle, elle avait des bras nus et elle était très jolie. Ce n'était pas une gitane à la peau bronzée, pas du tout. Des grands yeux noirs, des cheveux très 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 longs, très noirs, très ondulés. Enfin, c'était vraiment une superbe. C'est ce qu'on se figure comme gitane. Très propre, très très jolie.
Il était très évident qu'il souhaitait parler. C'était un besoin viscéral. Je pense que ce récit qui m'a frappé. J'allais dire par sa concision, pour quelqu'un qui a parlé presque sans discontinuer pendant 5 ans, c'est peut-être pas le mot, mais le fait est que même s'il a beaucoup parlé, c'est au fond parce qu'il avait beaucoup à dire, mais chacune des anecdotes qu'il me les a racontées, j'ai l'impression qu'il me les a racontées sans gras, sans rien de trop. Donc, elles avaient d'ailleurs une telle perfection pour moi dans leur développement, dans leur qualité vraiment de récit littéraire, presque d'anecdotes bien construites, que je me suis dit qu'au fond, c'était peut-être pas la première fois qu'il formulait ce témoignage. Et j'ai appris plus tard que même si c'était la première fois qu'il le faisait à quelqu'un de cette manière, au fond, il s'était déjà dit à lui-même une fois tout ce qu'il m'avait dit, et que cette façon de se l'être dit lui avait permis d'en faire en quelque sorte une sorte de livre intérieur qui était prêt à la lecture, qui avait déjà été rédigé.
Oui, tu fais aussi ton autoportrait en faisant la guerre d'Alan.
Alors ça, tu le dis, je le comprends, parce qu'au fond, je crois que c'est assez vrai. Néanmoins, on peut difficilement rêver deux vies plus différentes que les nôtres. Il nous aurait pratiquement rien arrivé de commun biographiquement, si ce n'est beaucoup de choses, et là je te rejoins, dont regorge la guerre d'Alan et dont tu verras regorgera encore plus l'enfance, qui sont des menus faits qui pour moi comptent parmi vraiment nos dénominateurs communs. Je viens de terminer une séquence par exemple, à Long Beach en 1930 où, à l'âge de 5 ans, il va passer des après-midi à la plage avec ses parents. Alors, il était à l'arrière d'une vieille Ford T et il faisait une trentaine de bornes pour rallier Pasadena à Long Beach. Mais il est évident que cet enfant, à l'arrière d'une voiture, regardant la nuque de ses parents en train de parler à contre-jour, allant à la plage, en revenant, s'en suquant après cette journée de plage, les joues recuites par le soleil et petit à petit s'endormant à l'arrière de la voiture, quand je raconte ça, quand 3, 4, 5 pages sont dévolues à ça, c'est évidemment parce que je considère que ces moments sont précieux, c'est des moments qu'on a tous vécu, c'est des moments qui, au-delà de leur aspect formel, c'est-à-dire un enfant à l'arrière dans une voiture, disent beaucoup de choses sur d'abord les souvenirs qu'on retient volontiers de notre enfance, les relations qu'on a avec nos parents, la découverte qu'on a d'une intense chaleur un après-midi, du contraste qu'il y a entre cette chaleur et puis la fraîcheur d'un océan dans lequel on va se tremper, etc. Tout ça, ce sont des choses qui constituent la matière première du récit qui m'a fait, parce que au fond, ce qui racontait le plus excellemment, c'était ça. C'était des menus faits de la vie quotidienne.
Another one is coming. Just one. The dog walked by in front of me, but he's very silent. Emmanuel is not laughing anymore. It's too bad. But then, he can't laugh all the time, poor boy. A car is coming by, but just one.
Il adorait les oiseaux. Il avait une volière.
Il a une volière ici, et puis dans sa maison de ville, il y avait.
Rue Suzanne Cotonneau.
Ouais, Rue Suzanne Cotonneau. Il avait effectivement. Il avait un ménat, il avait un perroquet, il avait toutes sortes d'oiseaux, ce qui fait que les quelques conversations qu'on a enregistrées là-bas sont toujours farcies de chants d'oiseaux qu'on entend comme ce soir.
Les oiseaux luttent avec la circulation. Mmh. Là.
C'est comme dans la chanson de traînée, ils font beaucoup plus de bruit que les autos, les oiseaux.
Heureusement qu'ils sont là.
Oui.
On peut les approcher, les oiseaux.
Quand j'ai rencontré ce monsieur, au fond, je me suis rendu compte assez vite qu'il étanchait la soif d'avoir un grand-père, chose qui m'a été refusée relativement vite dans ma vie, puisque j'ai perdu mon premier grand-père à l'âge de 8 ans, le deuxième à l'âge de 13 ans, et l'un et l'autre m'ont beaucoup manqué. Et donc, quand j'ai rencontré Alan, assez vite, je me suis rendu compte qu'une partie du bonheur que j'avais à passer du temps avec lui consistait à renouer avec, alors non pas une génération qui était celle de mes grands-parents, parce qu'il était quand même plus jeune qu'eux, mais avec des impressions vraiment physiques que j'avais petit à côtoyer, par exemple mon grand-père paternel dont j'ai été très proche, et une certaine qualité de... Ouais, de tiédeur qu'il peut avoir dans un intérieur comme ça, de personnes âgées, etc.
C'est un désir de plonger dans le passé aussi, de se couper du monde présent.
Sans doute pas pour se couper du monde présent, mais j'avais rien contre le fait qu'il me raconte des souvenirs lointains. J'aimais beaucoup ça, oui, effectivement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les dessiner aujourd'hui, c'est que l'idée de réinvestiguer comme ça une période... Alors là, pour le coup, là, je suis en train de dessiner les années 20 et 30 du siècle passé. C'est pas tout près. Et cette découverte, je la lui dois, parce que je pense que j'aurais jamais raconté ça de manière si intime si j'avais pas eu cette intarissable source de souvenirs. Parce qu'il m'a tellement raconté qu'au fond, j'ai eu des perspectives sur cette période. J'ai eu des descriptions de ce que c'était que la vie de tous les jours dans les années 20 et 30, comme je n'en avais, je pense, jamais eu auparavant, de première main, comme ça.
Monsieur le Président, je vous passe votre secrétariat.
Salut Henri.
Ça va, on est arrivé. Je sais pas si vous avez eu mon message, Henri, on est arrivé tout à l'heure, là. Là, on est chez monsieur et madame Gilardeau. On vient de faire résonner la voix d'Alan dans leur maison, ce qui est très émouvant. Et on se demandait si on pourrait vous rendre une petite visite demain matin.
Pas trop tôt.
Qu'est-ce qui vous arrange?
10h30.
10h30, 11h.
Il a 89 ans.
Hein. 11h, ça irait?
11h, voilà.
C'est bien. C'est l'heure.
Non, on peut se faire un petit 11h midi.
C'est idéal pour tout le monde.
Il a 89 ans.
Voilà.
Il est en forme, mais quand même.
Vous le connaissez, non?
On se dit 11h, Henri?
Non.
Ça ira à Suzanne? Ah bah génial.
Quel souvenir vous avez d'Emmanuel Guibert quand il a débarqué donc ici il y a déjà un certain nombre d'années?
Excellent.
Il était comment?
Oh, il était Bien sûr, il avait plus de jeunesse. Parce que ça fait déjà un bout de temps. Hein.
Toujours.
Et puis, on a été très heureux tout sur ça. Il a été adopté. Et, puis, et comme il était venu avec Alan, je fréquentais bien Alan, c'était un ami. Ah ben, Alan, c'était un personnage. Ah ouais.
Vous pouvez nous le décrire un petit peu, comment il était physiquement et comment il se comportait. C'était quelqu'un de volubile, de
très... C'est un type non. Il était comment, très volontaire. Il a vécu une enfance très dure en Amérique. Et donc il est venu en France, il a demandé la nationalité française et on lui a jamais accordé.
Alors, il est mort américain.
Il est mort américain.
Subitement, il nous a traité de je ne sais pas quoi, mais enfin des choses pas très gentilles. Et il a sorti un énorme couteau très très long qu'il avait à sa ceinture. Et il nous a menacé, et bien que ce fût un gars qu'on connaissait, et que bien qu'évidemment il nous connaissait, il n'avait pas l'air de savoir qui nous étions ni rien, et il était très très menaçant. Il a levé ce couteau et il a commencé à faire des gestes vers les uns et les autres, et en disant je vais vous tuer tous. Il a eu un air si menaçant que tout le monde est parti. Sauf moi, eh bien, je n'aimais pas tellement Kubitschek, je le tolérais, probablement comme il me tolérait, mais je me suis dit, je ne peux pas laisser cet homme dans cet état, il peut faire des choses risques. Et je me souviens que c'est là, encore une fois, où je me suis rendu compte que j'avais des réactions à la peur assez bizarres, parce que je n'avais plus peur du tout. Et ma seule pensée était, comment vais-je faire pour faire passer ça?
C'est un type franc, très franc.
Ah oui, c'est sûr.
Et quand il avait envie de dire quelque chose, il le disait carrément. Et j'aime bien ces gens-là parce que ils sont naturels, ils sont vrais, quoi. Parce que vous avez des gens qui vous passent de la pommade, ou bien qui vous endorment avec des grandes paroles, et c'est pas son genre.
Mais je pense qu'Henri sera et Suzanne seront d'accord pour dire que c'était quelqu'un pour qui la parole avait beaucoup d'importance.
Beaucoup.
Voilà. Non seulement la parole dans le sens de la parole donnée, de la franchise, comme dit Henri, etc., mais aussi la façon de s'exprimer.
Alors moi, j'ai déménagé de Saint-Martin lorsqu'il est allé
à Sainte-Marie.
Oui. Dans ses derniers moments, il avait un cancer, il souffrait beaucoup, il était très, très très mal, très malheureux. Et j'ai été l'aider à transporter toutes ses affaires là, à Sainte-Marie. Alors il s'installait là-bas comme s'il allait... Comme il m'a dit un jour, j'espère que je ne vais pas encore crever tout de suite. J'aurai le temps d'en profiter.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris qu'il est parti là-bas. Je ne m'en rappelais plus, tu m'as fait rappeler ce matin.
C'est-à-dire que tu sais bien que... sa femme...
Lucienne
ne voulait plus être dans la maison toute seule.
Elle
est entrée à la maison de retraite. Et lui, il ne voulait pas entendre parler d'une maison de retraite, même s'il était mal foutu. Alors il s'était loué ce petit appartement là-bas, ce petit logement là-bas à Sainte-Marie.
Ce que j'aime bien, la façon dont Henri parle d'Alan, c'est que, au fond, Henri et Suzanne, ils ont été séduits par Alan. Ils ont trouvé que c'était quelqu'un de bien. Voilà. Parce que c'était quelqu'un dont l'amitié n'était pas facile à conquérir. Et à conserver, parce
qu'il pas facile.
Il pouvait avoir du...
Mm-hmm. Il vous avait laissé le droit de passage aussi.
Il nous aimait bien, vous invitait souvent. Hein.
Voilà. Ouais. Mais parce qu'il pouvait ruer dans les brancards, par moments il pouvait être un peu rude même.
Ouais.
Mais les gens, comme Henri et Suzanne, qui avaient identifié en lui cette espèce de source fondamentale qu'il avait, c'était quelqu'un de très clair, je crois qu'il avait une grande pureté intérieure, avec quelque chose de très droit chez lui... Et une fois qu'on avait identifié ça, on passait outre les sautes d'humeur, les moments
ouais,
un peu...
Ouais.
Et on l'aimait pour ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui... Je crois que c'est une des rares personnes que j'ai vues qui disait du mal des gens en face d'eux et du bien dans leur dos.
Est-ce qu'il t'échappe quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas...
Il m'échappe beaucoup dans la mesure où il est loin de m'avoir tout dit sur sa vie. J'ai dit qu'il avait déversé son existence dans la mienne, je crois que c'est le terme. Néanmoins, évidemment, il a même s'il m'a dit beaucoup de choses, il a conservé des secrets. Et d'ailleurs, j'écoutais, mais je questionnais pas beaucoup. Donc,
pourquoi?
Parce que j'avais pas vraiment envie qu'il m'en dise plus que ce qu'il souhaitait me dire. Donc,
il n'y a pas d'enquête.
Il peut y en avoir éventuellement une depuis. C'est-à-dire, depuis qu'il n'est plus là, je suis allé demander des compléments d'information, y compris, par exemple, au fin fond de l'Ohio, il y a quelques années, à une dame qu'il avait connue quand elle avait elle-même 16 ans et lui 20. Et j'ai passé 4 jours auprès de cette personne à parler d'Alan. Et elle m'a parlé du jeune homme de 20 ans qu'elle avait connu. Moi, je lui ai parlé du monsieur de 70 ans que j'avais connu. On a essayé de faire coïncider les deux portraits. Mais donc ce type de recherche, je l'ai fait et je continue à le faire. Mais je n'avais pas une curiosité qui excédait sa pudeur ou qui excédait ce qu'il voulait bien me dire.
Shenandoah, this very popular folk song was originally the story of a white trader and his love for the daughter of an Indian chieftain, Shenandoah, for whom a river was named. Later, it became a favorite song of seagoing men. The river named in the song refers to the Missouri. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Away, you rolling river. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Away, we're bound away, cross the wide Missouri.
Voilà. Il y avait une belle voix en plus, hein.
Oui.
Une belle voix, de la cadence pour chanter a cappella comme ça, et il a la vie, il a le rythme. Hein.
Oui, alors moi j'avais acheté un terrain, donc qui est maintenant
le voisin là.
Et donc j'avais comme voisin Cop. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est connus, évidemment. Je le voyais comme ça 114. Dans Saint-Martin, je savais qu'il était américain, c'était californien. Mais sans plus, quoi. Et puis alors là, donc, lorsque je suis devenu propriétaire et voisin.
Et ami,
je suis. Souvent, il était là, dans sa petite baraque, là-bas. Et puis moi, j'étais en train de tailler ma pierre.
Oui, tailler la pierre juste sur le terrain, au côté. Hein.
Parce que j'avais pas d'atelier. J'avais acheté ce terrain-là pour construire un atelier. Et on ne m'a jamais accordé.
Le permis.
Est-ce qu'il était... Vous parlez de votre amitié Emmanuel insiste sur l'amitié, enfin que c'est une... Oui. Tout ça, c'est finalement une histoire d'amitié. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde autour d'Alan, ou c'était quelqu'un de plutôt solitaire?
On connaissait pas mal de monde.
Je connaissais du monde, mais pas tellement,
Il n'était pas...
Non, il ne fréquentait pas une foule de gens. Il avait un ami aussi, là, qui était américain. Mais lui, il était de... Je ne me rappelle plus de quel état il était, mais il vivait au Bas-Plage. Alors, il se voyait de temps en temps. Et je crois qu'il y avait un autre Américain dans l'île aussi.
Oui, il y a M. Scheer, que j'ai connu, moi, qui avait la même histoire qu'Alan, qui était un GI, qui avait débarqué comme lui, puis qui s'était établi en France. Ouais. Il ne se voyait pas beaucoup. Non, Alan, il donnait des petites leçons d'anglais, ça on ne l'a pas dit, aux enfants de l'île, pour arrondir les fins de mois. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il était à l'aise, mais enfin, c'est quelqu'un qui a tiré le diable par la queue toute sa vie. Et il avait touché sa petite pension, enfin, il comptait quand même les sous, il n'avait jamais vraiment d'avance. Donc, une des façons qu'il avait trouvé d'arrondir un peu les fins de mois, c'était de donner des petits cours d'anglais.
Warp revealed. Suddenly, I see a chain of love. And all these loves could have been wonderful if I had animated them with myself. I see, after having lived blind, that having always been deprived of love, I have ever managed to have a love before me, day after year, after decade, a love there and unknown, in the midst, caressable and uncaressed, and yet joining link into link after hold, a whole life of could have been most worthy, indeed, a chain of love, a good one.
Traduction.
Alors, c'est un poème qui dit qu'au fond, l'amour pour lui a consisté à être privé d'amour toute sa vie, mais avoir toujours un amour en réserve devant, there and unknown in the midst, ici et en même temps inconnu, un peu dans le brouillard, caressable et incaressé, caressable and uncaressed, et pourtant qui au long de sa vie a créé une chaîne permanente, une chaîne d'amour, et il finit en disant finalement une bonne. Voilà, a good one.
Je me souviens aussi d'une chose qui est arrivée beaucoup plus tard. Nous étions en Allemagne et bon, on ne savait pas où, toujours. Pour la nuit, nous nous sommes arrêtés dans ce qu'on peut appeler une sorte de quartier résidentiel où il y avait des maisons pas mal du tout. Même avec...
Est-ce qu'il vous parlait de sa guerre ou est-ce qu'il n'en a parlé essentiellement Emmanuel? Est-ce que ça faisait partie de son quotidien longtemps après de parler de cette période?
Il en parlait, mais pas abondamment. Hein. Souvent, moi, je branchais un peu sur ça. Et, bon, il m'en racontait des événements qu'il avait vécu. Mais il s'attendait
pas. Il parlait beaucoup de la guerre.
Hein?
La guerre. Il parlait beaucoup. Hein.
Oui, enfin, pas tellement quand même. Parce que lui, il débarquait, et puis moi, j'étais en Bretagne, dans la résistance à ce moment-là. Et les Allemands sur le dos, là. Alors, moi, j'étais avec des forces françaises libres qui étaient parachutées. C'était des gens qui venaient de Londres, qui étaient parachutés, parce qu'on faisait des parachutages, on recevait des armes, on recevait tout un tas de choses, évidemment, pour organiser la résistance. Alors il y avait des Américains, vous avez l'intelligence service, etc., etc. Mais j'étais avec ces gens-là pendant un moment, on était en contact avec Londres tous les jours. Mais sa femme était également dans l'armée américaine.
Oui, c'est
allez, on va pas laisser ça trop refroidir.
Il faut trinquer là.
Allez hop.
C'est l'heure.
On trinque.
Santé.
Santé.
Chin-chin.
Monsieur Burel.
Chin-chin. Henri et Suzanne.
Merci. Hein.
Mon grand-père Cope, quand ils se sont mariés en Pennsylvanie, c'est sur la côte atlantique, n'est-ce pas, lui avait donné comme cadeau de mariage un piano, un beau piano, donc il avait pu à l'époque c'était une belle chose, c'était un Steinway, mais un Steinway américain, et c'est ce qu'on appelle un piano forte, mais ce n'était pas un petit piano forte, c'était un très grand piano forte, rectangulaire, en bois de rose, avec les pieds en ébène. Il était superbe. Et quand ils sont venus en Californie, le piano est venu avec. Une des différences essentielles entre ce piano et les pianos qu'on a fait un peu plus tard, c'est que là où, dans le haut d'un piano actuel, il y a trois cordes, par note, dans le vieux pianoforte, il n'y en avait que deux. Mais il avait un très beau son, et c'est là-dessus que j'ai appris à jouer, je dois dire. Et on me l'a enlevé plus tard. C'est une des tragédies de ma vie. Mais revenons donc au cadeau de mariage, ça a suivi ma grand-mère pendant assez longtemps.
Je me
me rendais compte que cette différence d'âge qu'il y avait entre Alan Kopp et toi-même, Emmanuel Guibert, 39 ans, qui peut paraître énorme, et finalement à peine le temps suffisant pour raconter l'histoire que tu as écoutée pendant le très peu de... l'intervalle de temps relativement bref où tu l'as connue, où tu l'as écoutée. Donc ces 4 ans ou 5 ans d'écoute, suivi de 40 ans ou peut-être même 50 ans de travail à partir de cette écoute, ce qui fait que quand tu dessineras sans doute les derniers jours d'Alan, si c'est le point final de ton histoire, tu seras même plus âgé que lui.
Alors tu as parlé du temps, il est évident que quand je me suis lancé dans l'affaire, au fond je me suis dit que si cette affaire devait valoir le coup, ça serait pour montrer ce que le temps fait à quelqu'un, voilà. C'est-à-dire ayant eu le privilège de rencontrer quelqu'un qui a déversé son existence dans la mienne. C'est-à-dire qui a fait un témoignage qui quand même dépasse de beaucoup tous les témoignages qu'on peut recevoir, y compris de proches. Parce qu'au fond, c'était notre boulot. Quand un père, une mère, un grand-père, une grand-mère vous raconte des souvenirs, c'est occasionnel parce que souvent ça tombe dans les circonstances d'un repas, un truc comme ça qui éveille quelque chose, et on se livre à une confidence. Et puis ensuite, la vie va reprendre, où on va échanger toutes sortes de propos sur la vie comme elle va au jour le jour, et puis quelques semaines après, reviendra un autre souvenir, etc. Tandis que nous, on savait que, à côté d'une pratique amicale qui consistait à, de temps en temps, à jardiner, à aller à la plage, à faire un peu de vélo, etc., à jouer du piano, ce qui nous réunissait, c'était quand même son passé. Il a d'ailleurs eu avec moi la tentation d'aborder d'autres sujets. Il avait des préoccupations philosophiques qui le poussaient d'ailleurs à écrire beaucoup, pour lui-même, pour d'autres, dans la mesure où il correspondait avec pas mal de gens. Donc, il échangeait des vues sur... philosophique, il n'y a pas d'autre mot. Et il a essayé de m'entraîner sur ce terrain-là. Et j'étais réticent, il le sentait. Au fond, moi, j'étais vraiment l'interlocuteur avec lequel il fallait qu'il parle de sa vie, qu'il parle de son passé. Donc, l'encourageant à cela, je me suis retrouvé très rapidement à la tête d'un patrimoine extrêmement conséquent de bandes enregistrées. J'ai à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine ou une soixantaine d'heures de conversation avec lui. Et donc j'ai pu avoir une vision en perspective quand même, une vision assez circonférente de toute son existence, parce qu'à force d'écouter et de réécouter ses bandes, de son vivant, évidemment de lui demander parfois des tel ou tel complément sur ce qu'il me disait, etc., j'ai fini par connaître sa vie comme on connaît rarement la vie d'un autre. C'est-à-dire j'étais capable de lui restituer, dans le cours d'une conversation, des embranchements, de lui dire « mais non, t'as plutôt fait ça à telle période, etc. » Et ça, c'était... c'est rare que ça arrive, une chose pareille. Et le matériau des livres est là.
Est-ce qu'il était religieux?
Qu'est-ce que vous en diriez, Henri?
Non.
Moi, je pense que la religion a été une question et une énigme pour lui toute sa vie. Ouais. Mais je pense qu'il avait un certain type de foi... Mais s'il fallait dire laquelle...
Très difficile.
Ouais.
Il avait perdu ça en traversant l'Atlantique.
Oui, d'ailleurs, c'est un des sujets de mon livre, La guerre d'Alan, on en parle. Hein, il dit qu'effectivement, après avoir reçu une éducation religieuse dans son enfance, comme c'était le cas aux États-Unis, comme ça l'est toujours d'ailleurs dans beaucoup de communautés, mais... la vie l'a amené petit à petit à se détacher de ça. Il y avait même une espèce de scène primitive, c'était à son retour aux États-Unis immédiatement après-guerre, il a repris des études, et à ce moment-là, il voulait être pasteur, à l'imitation d'un pasteur, d'un chaplain dont il avait été l'assistant à la fin de la guerre, qui était un monsieur qui l'avait beaucoup marqué, et il s'était dit, je vais retourner aux États-Unis, et je vais aller évangéliser les âmes, etc. Et puis, il s'est retrouvé dans les forêts de grands séquoias des abords de San Francisco, à suivre une sorte de séminaire en plein air, comme ça, où on les faisait cogiter, on les faisait chanter, danser, prier, etc. Et après 3 semaines de ce régime, il s'est dit, mais non. C'est pas possible, c'est pas ça, la vérité n'est pas là, on me raconte des cracks. Faut dire en plus qu'il était un peu sapé par des copains, Gerhard Munch d'un côté, un autre copain qui s'appelait Landis de l'autre, qui eux étaient des athées déclarés, qui essayaient de lui dire « mais écoute, tu fais fausse route ». Donc, avec tout ça, il a pris ses clics et ses claques, et au fond, ce jour-là, il a vraiment tourné le dos à la religion protestante dans laquelle il avait été élevé. Et après, ça a été une suite de réflexions, de recherches. Je pense qu'il n'a jamais abandonné l'idée d'une... Il parlait beaucoup du cosmos, mais... Mais la religion de ses pères, il l'avait abandonnée, oui. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une pipe et d'un cheval, une prairie et une montagne et un ami indien. De l'eau claire et chantante, d'une belle petite rivière rapide et une colline parsemée de chênes verts. De l'air limpide, suspendu à un ciel sain, une selle de lisse cuir diffusant une bonne odeur et des journées partagées entre labeur et une douce femme, bonne mère, bonne cuisinière, une grosse soupe succulente chaque soir, et du pain frais chaque matin au beurre maison. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir la distance mélangée à l'intimité d'occasionnels ravins où campent pour une nuit ou deux des hommes errants. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un cheval, d'un ami indien, d'un calumet de la paix et du vent.
Je sais que l'avant-veille de sa mort, avant qu'il ne fasse une attaque qui l'a rendu aphasique, une des dernières choses qu'il ait dites à ses médecins, c'était, alors eux me l'ont dit parce que je suis arrivé très peu de temps après, en leur tendant une enveloppe que je venais de lui adresser et qui, comme souvent, était farcie de croquis que j'avais fait et que je lui envoyais pour lui faire profiter un peu du monde extérieur, à un moment où il n'y avait plus accès, il a dit à ses docteurs, avec une espèce de gourmandise, « Aimez-vous l'art ?» Alors, tous les on dit oui, pourquoi pas, et il a ouvert l'enveloppe que je lui avais envoyée, il a dit, voyez, ça c'est fait avec du pastel, ça c'est fait avec des encres, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs, après son décès, que ces deux toubibs me disent, mais au fond, jusqu'au bout, il a été heureux et fier de montrer le travail que vous faisiez ensemble.
Pyro-Serge.
Allez.
Monsieur Gillard, encore une goutte, non Gilles ?
Volontiers.
Vous vouliez poser une question ?
Ben, le résumé, c'est que il avait un tempérament un peu sauvage tout en étant tiré à quatre épingles le dimanche.
Oui, ça c'est sûr. Merci.
Alors, pas tous les dimanches non plus. Hein. C'était surtout, je pense que recevoir quelqu'un ou se rendre dans des circonstances, ne serait-ce qu'aller au restaurant, etc., c'était un événement. Ouais. Ça sortait de la vie de tous les jours et il fallait le marquer.
Absolument.
Moi, il m'était chu la drôle de tâche quand on y réfléchit de choisir comment il serait habillé dans son cercueil. Et on est allé ensemble, Henri, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en haut là dans sa chambre, on a ouvert son armoire et on a cherché qu'est-ce qu'on allait lui mettre. Et on s'est dit que c'était une grande occasion, là aussi, et qu'il fallait qu'il soit comme il aimait dans les grandes occasions.
Donc
on a sorti un beau costume. J'ai pris une cravate très colorée, je me souviens. Et on a amené ça à l'hôpital Saint-Louis.
Mais je me rappelle, jusqu'au dernier moment, il voulait écrire. Hein.
Ah oui.
Il écrivait dans son lit... Et... Très malade. Tu rappelles, Henri ?
Ah ben j'ai encore des... Comment c'est là ?
Vous aurez donné des feuilles.
Ouais. Il faisait de la poésie aussi, il écrivait, il avait un fond poète. Et il était bien. Et moi j'ai gardé de ses poésies écrites. Hein. Je pourrais pas les éditer parce que ça, je sais pas.
C'est un poème qu'il a rédigé pour son ami Gerhard Munch, ce pianiste qui vivait à Mexico, avec lequel il entretenait une longue correspondance. Donc le poème est intitulé « Pour G. » Point. Et il dit, le poème s'appelle « Invocation ». Il y a quelque part, non loin de toi, dans la ville, ou près de la montée,
Un homme. Je pense que c'est un homme. Peut-être une femme, mais je pense que c'est un homme. Qui est jeune. Pas 30 ou peu plus. Car bien plus que 30, il serait fier, aveugle, borné, calculateur, accumulateur, agressif, frondeur, cru, dur. Son regard doit être doux. Il doit rêver devant les mots et les notes. Il est encore ange, ne pas trop lui parler. Il aimera les cactus et les oiseaux, sans les connaître. La force de ses mains vient de sa jeunesse, de son enthousiasme, de son émerveillement. Il n'est pas innocent, il est enchantement. Il sera catalogueur, conservateur fidèle. Ses bons sentiments seront mal fondés, peu importe cela. Il n'a pas encore perdu en lui l'ange. Il est pour toi. Et ce qui me frappe quand même, c'est qu'il dit à son copain dans les années 80, il y a un gars de 30 ans qui va venir te rencontrer, qui va te faire du bien, et qui va être le catalogueur de ton histoire. Et c'est marrant parce que ce qu'il souhaitait à son meilleur ami, c'est à lui que c'est arrivé. C'est moi qui me suis pointé, j'avais 30 ans, c'est troublant, il dit dans la montée, alors j'ai monté la rue Suzanne Cotonneau pour accéder jusqu'à chez lui, et puis voilà, il s'est retrouvé avec quelqu'un auprès de lui, qui a été, comme il dit, le catalogueur, le conservateur fidèle.
Il y avait une superbe rivière, très très belle. Ça m'a toujours fait penser à la musique du Moldau, parce qu'elle coulait profond. Je ne sais pas quelle était sa profondeur, mais on voyait que cette rivière était très profonde. L'eau coulait avec une certaine rapidité, mais ce n'était pas un torrent. Ce n'était pas une de ces rivières qui coulent tout doucement. L'eau cavalait, disons. Et puisqu'elle était très profonde, elle était assez lisse et de couleur foncée. Je pense qu'on peut dire que cette rivière avait une largeur de... était assez large à ce point-là, enfin, peut-être presque 20 mètres.
Quels sont vos points communs, en quelques mots? Tu en as déjà dit un petit peu, mais si on faisait une...
Je crois qu'il aimait, bien vivre, et moi aussi.
C'est quoi bien vivre?
Ça lui plaisait, ça l'intéressait d'être en vie. Je ne sais pas si j'ai dans ce livre... une citation d'un petit texte. Oui, c'est ça. Il dit « Je me suis toujours senti enthousiaste et heureux devant la vie. À quelques très rares exceptions près, mort d'un être aimé, douleur physique, effondrement total de situation, j'ai toujours ouvert les yeux le matin sur un monde qui paraissait me promettre une journée belle à vivre. Le fait d'être me paraissait une promesse, une invitation à entrer dans la lumière. Pourtant, le plus souvent, avec le passage des minutes de la journée, la promesse se vidait de sens, l'invitation ne menait nulle part. Mais la belle nuit venait chaque fois éteindre les fausses lumières et le lendemain matin, mon enthousiasme était tout aussi grand. » Et il y avait de ça en lui. C'est-à-dire que je l'ai vu traverser des épreuves épouvantables et c'était quand même quelqu'un qui aimait se lever parce qu'il attendait quelque chose de la journée à venir.
The corn tops ripe and the meadow is in bloom while the birds make music all the day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright.
Portrait d'Alan Ingram Cope, par Christian Rosset, avec Emmanuel Guibert, Henri-Suzanne Burel, Monsieur et Madame Gillardot, et la voix d'Alan Cope. Prise de son Benjamin Thuot, mixage Éric Boisset. Réalisation Gilles Davidas.
Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. We'll sing
La bande dessinée La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, c'est en 3 volumes et c'est publié aux éditions L'Association. Aujourd'hui encore, Emmanuel Guibert continue de mettre en image les récits d'Alan Cope. Cette fois-ci, ce sera L'enfance d'Alan, un volume épais qui paraîtra l'an prochain. Il sera suivi de L'adolescence d'Alan. Et tout ça aux éditions L'Association. Soyez aux aguets.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 novembre 2011.